Interview.
2023, il y a aussi des avocats ou presque avocats, parce que j'ai appris ce mot, avec Eloane, salut.
Salut.
Et Sylvain.
Salut.
Sylvain, t'es avocat, Eloane, t'es presque avocate, tu vas nous expliquer pourquoi, et puis surtout dites-nous qu'est-ce que vous faites sur ces rencontres Les Résistantes 2023.
Eh bien écoute, nous on est là pour faire partie de la permanence de droit de l'environnement. C'est sur 2 jours, donc c'était hier et aujourd'hui. On avait un petit stand qui est un peu parti en lambeaux avec le vent. Donc on était aux médias alternatifs, c'est là où on s'est rencontrés tous les deux. Et on tient la permanence de droit de l'environnement, c'est-à-dire que tous les assos particuliers qui ont des sujets en enviro, ils peuvent venir nous voir, nous poser des questions. Et nous, on leur fait des consultations gratuites, on essaie de répondre à de résoudre leurs problématiques en un petit délai. Sinon, la raison pour laquelle moi je suis là, c'est parce que j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat, j'ai envie de m'investir dans ces luttes et j'ai fait du droit de l'environnement, j'ai fait du droit d'abord. Ensuite j'ai décidé de faire du droit de l'environnement pour cette raison et ensuite j'ai décidé de prêter serment et de devenir avocat également pour cette raison. Donc voilà, hein, j'essaie d'aller au concret.
Et qui met en place ces permanences finalement? C'est quoi? Il y a une asso, il y a quelque chose derrière? Allez, Eloane.
Vu que c'est la première année du coup du festival, ça a été un peu organisé comme ça. Enfin, il y avait un formulaire sur lequel on pouvait proposer des activités. Donc, j'ai proposé une permanence en droit de l'environnement et après il y a Sylvain qui s'est mis dessus aussi. Donc, vu que c'est la première année, on n'est que tous les deux, mais on espère que si le festival l'année prochaine se et de nouveau en place, on pourra accueillir plus de monde, plus d'avocats qui seraient motivés pour tenir cette permanence avec nous et que les collectifs puissent vraiment venir à notre rencontre, nous poser des questions et qu'on puisse les orienter dans leur lutte.
Alors Sylvain, tu as commencé à nous le dire, Eloane, c'est quoi ton parcours? Racontez-nous un peu le parcours d'un avocat pour finir par être vraiment avocat par exemple.
Du coup, il faut faire 5 ans d'études de droit, donc une licence d'abord en droit, puis un master, master 2, donc 2 ans de master. Et puis après, on n'est pas obligé, en fait, enfin, moi je ne l'ai pas fait tout de suite. On peut, si on veut, essayer de rentrer à l'école des avocats. Et pour ça, il faut qu'on arrive à passer un examen qui s'appelle le CRFPA, qui est assez difficile, où il y a 30% de réussite. En fait, moi, j'ai fait des stages après mon Master 2 dans des institutions européennes où j'ai découvert le sujet des pesticides. Et je me suis dit, je suis déjà engagée personnellement dans l'environnement et j'aimerais bien utiliser justement mes compétences juridiques pour donner du sens à cet engagement environnemental. Et donc, je me suis dit, passer le barreau et avoir le statut d'avocat, peut-être que ça peut permettre de donner un poids et une légitimité à ce combat. Et donc, je me suis motivée à passer le barreau que j'ai eu. Et après, donc, on a 1 an et demi de formation à l'école des avocats, 3 fois 6 mois de stage. Et donc là, moi, j'en ai profité pour aller dans des cabinets d'avocats militants et dans une association de protection de l'environnement qui s'appelle France Nature Environnement. Et ils sont assez actifs en termes de contentieux environnemental. Ils font pas mal bouger les choses depuis les années 70, il me semble. Donc c'était une chouette expérience et en fait presque avocate parce que je prête serment à la fin de l'année après des examens en septembre. Et voilà, moi je veux ouvrir mon cabinet d'avocat pour défendre des collectifs et des associations en lutte contre des projets imposés et polluants.
Tu dis avoir découvert le sujet des pesticides, être engagé aussi personnellement. En fait, qu'est-ce qui te lance dans la défense de l'environnement ?
C'est ce stage dans cette institution européenne qui s'appelle l'Autorité de sécurité alimentaire. C'est l'EFSA en anglais, l'acronyme, et c'est vraiment là que je découvre les pesticides et comment ça marche en Europe, leur autorisation. le fait que ce soit les, enfin Monsanto, Bayer et tout ça qui financent en fait leurs propres études pour qu'après l'EFSA valide ou pas les substances.
Et ouais, c'est eux qui ont leur propre, c'est leur propre labo, c'est leur propre scientifique.
C'est en fait c'est eux qui ont l'argent pour faire des études, donc c'est eux qui les font et après on valide ces études. Et je me suis dit mais en fait ça va pas, enfin faut qu'il y ait des gens qui agissent et voilà, c'est comme ça que je me suis j'ai pu après du coup intégrer des cabinets militants, parce qu'il y a un avocat à Paris qui est assez connu sur le thème des pesticides, François Laforgue, et donc qui a été intéressé par mon expérience à l'EFSA. Et puis après ça m'a permis d'aller à France Nature Environnement, enfin la vie est bien faite quoi. Après petit à petit on arrive là où on veut, faut juste y croire.
Sylvain, ton parcours?
J'avais envie de faire quelque chose en rapport avec la nature. Moi, quand je grandissais, j'allais dans le sud, en Provence. Je voyais un peu comment ça se déroulait, que ce soit la chaleur, que ce soit parfois les incendies. Et puis, j'ai des parents aussi qui m'ont beaucoup appris ça. J'étais sur le Larzac en 2003. Alors, j'étais jeune, hein. J'étais bébé, mais j'y étais. Et ensuite, pourquoi le droit, du coup ? Parce que j'avais envie de partir en Allemagne, j'ai commencé mes études de droit en Allemagne, j'avais envie de partir en Allemagne et j'avais envie de plus m'intéresser à la société et à ses règles, et donc ça passe par le droit. Et ensuite, j'ai réussi à renouer avec le droit de l'environnement en Master 2, donc à ma cinquième année, puisque j'ai décidé de faire un M2 en droit de l'environnement spécialisé, et à partir de là, en fait, je m'étais dit, le droit, ça m'intéresse, mais c'est un outil. Moi, ma finalité, c'est pas celle-ci, c'est le travail, c'est l'environnement, parce que c'est aussi le travail, le droit du travail, c'est aussi une thématique qui m'intéresse. Soit j'arrive à lier les deux, soit j'y arrive pas et je fais autre chose. J'ai réussi, et enfin, j'essaie de réussir en tout cas. Et c'est pour ça que je suis là.
Alors du coup, moi, en vous écoutant, je découvre après le code pénal, le code du travail, le code de ci ou de ça, que donc il y a un code pour l'environnement. Est-il bien fait ? N'est-il pas arriéré ? Comment évolue-t-il ? Puisque vraiment, ces derniers temps, jeunesse que vous êtes aussi, pouvez témoigner de cette nécessité d'évoluer très très vite, avec des rapports du GIEC, pour ne pas les citer, qui changent en permanence. Peut-on faire confiance à ce droit de l'environnement ?
Alors, je ne sais pas si tu veux répondre.
Vas-y, vas-y, Sylvain.
Alors, sur le droit de l'environnement et sur le code de l'environnement, il faut savoir que c'est un code qui a été fait par étapes, qui comprend plusieurs matières. Et à l'origine, c'est quand même un droit de l'environnement qui a été créé pour contrôler et limiter les impacts de l'humain sur l'environnement, que ce soit par les rejets industriels ou autres. Donc on est vraiment sur un droit qui est là pour limiter les possibilités de destruction que peut avoir l'être humain. C'est un droit qui, enfin, un code qui, avec de nouvelles réglementations qui s'amoncellent, sur lesquelles on se bat, qui est peut-être parfois un cran en retard. Parce que du coup, nous, on arrive à détruire plus facilement en fait que les règles ne nous en empêchent. C'est un droit qui est en construction toujours, que ce soit sur la partie climatique. Là, c'est un nouveau sujet qui déborde le droit de l'environnement, le code de l'environnement, et qui est en train de se consolider. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a pu en parler sur le Larzac, mais il y a aussi des choses qui sont faites. Il faut le reconnaître, il y a des contentieux qui sont faits par des associations, par des militants, suivis par des cabinets d'avocats. Et c'est un travail où tout n'est pas à jeter à la poubelle. Quand on pense aux dernières nouveautés en droit de l'environnement, par exemple, on pense aux préjudices écologiques. Alors on pourrait se dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé dans les années 70 ? C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, il y a un préjudice écologique depuis l'ERICA au sein du Code civil, et c'est quelque chose qui peut amener une certaine réparation, donc il y a des avancées à faire. Après, vraiment, j'essaie d'être optimiste, hein, je te réponds de manière optimiste. Mais il y a des combats, en tout cas, à mener, encore.
Tu veux rajouter ?
Non, ça va. Enfin, moi, je trouve que le code de l'environnement, quand même, il est assez étoffé. Enfin, il y a des combats qui réussissent à se mener. Et non, j'y crois. Enfin, c'est un droit qui est en plein développement et en plein essor et qui est récent, en fait, hein, qui date pas de très longtemps. Je crois que c'est les années 80, quoi, les prémices du droit de l'environnement. Donc, en fait, on est sur un droit quand on pense que le droit civil, ça date, le code civil, il date de Napoléon. Enfin, voilà, on a encore du beau chemin à parcourir, je pense, et je suis optimiste pour la suite.
Une chose, c'est le droit. Seconde chose aussi, c'est les gens qui l'appliquent. Et là, un gros sujet qu'on a, c'est la formation des magistrats, par exemple. Des avocats également, mais des magistrats aussi.
Donc, là où il y a un train de retard, c'est plutôt sur le personnel sur pour appliquer.
Oui, exactement. Très bien dit.
Et donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi ? Est-ce que les écoles d'avocats doivent s'emparer de ce droit plus fortement ? Est-ce que dans les écoles de magistrature, c'est pareil ? Il manque un truc là ?
L'ENM, l'EFB, donc l'école des avocats, mais l'ENM s'en empare et en train, mais oui, pourrait vraiment prendre les choses à bras le corps. Et les magistrats, et un besoin de formation continue aussi qu'il peut y avoir. Et puis même, ça veut dire que lors des audiences, est-ce que y a une réflexion sur la stratégie aussi lors des audiences. Est-ce que lors des audiences, on ne pourrait pas faire venir des gens pour participer à cette formation ? Alors je dis ça, c'est très théorique, hein, parce que dans les faits, c'est complexe aussi de recourir à ces expertises. Mais il y a toute une réflexion à faire, en tout cas, à mener.
Qu'est-ce que, du coup, concrètement, vous avez pu faire là pendant vos permanences ? Quels sont les gens qui viennent vous voir ? Pour quel type de sujet ? Et puis, invitons aussi les gens à l'avenir à venir vous voir, puisque vous êtes présents sur ce genre d'événement.
Malheureusement, vu que c'est la première année, on n'a pas beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus nous voir. En plus, on était dans un barnum en plein vent, donc c'était compliqué. Mais voilà, on espère que l'année prochaine, il y aura plus de monde. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui sont déjà investies dans des collectifs et des associations et qui viennent dans ce festival. C'est aussi l'idée du festival de rencontre des luttes locales. Donc, on attendait que des personnes qui aient des questions un peu juridiques puissent venir nous les poser directement pour qu'on puisse un peu les orienter.
Alors, quelles questions on aurait pu vous poser ? Défendre un activiste écologiste ? Attaquer une méga-bassine ? Enfin, donnez-nous des exemples.
Ça aurait pu être, moi je viens ici parce que je me renseigne, j'ai besoin de nourriture intellectuelle. À côté de chez moi, ils veulent construire une nouvelle route, ça me va pas du tout, je comprends pas pourquoi on a besoin de faire une 2x2 ici, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être, mais il y a une centrale de méthanisation juste à côté, je comprends rien, même sans vouloir nécessairement l'attaquer ou autre, je comprends rien à toutes ces règles, arrêté préfectoral d'autorisation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Nous, on est là pour répondre à ces questions-là.
Alors, c'est un rôle plus d'éducation populaire là, que vous vouliez. C'est là, s'élever dans le droit, s'élever les uns les autres pour finalement avoir plus d'armes après.
C'est vrai. Il y a vraiment cette question aussi de... nous, on a 5 ans derrière nous, 5 ans d'études, donc 5 ans de formation. Et puis, tout le monde ici parle de lutte. Moi, je crois vraiment que la lutte, elle passe nécessairement par le droit. Alors, qui a ses limites, mais elle passe par le droit. Et donc, du coup, mon idée, c'était de pouvoir, à mon humble échelle, donner certains conseils. Certains conseils.
Est-ce que des avocats comme vous, qui prennent position, tu as cité un grand nom tout à l'heure que j'ai oublié, finalement, vous êtes aussi un peu ennuyé pour ça, parce qu'on sait que c'est, ça n'a pas vraiment le vent en poupe, quoi. Je parlais d'éco-terrorisme tout à l'heure, le mot préféré d'un certain ministre d'Intérieur. Est-ce que ça peut vous poser préjudice aussi dans vos carrières, dans votre avenir, dans vos positions, ce que vous êtes en train de faire ?
Moi, je pense que non. J'ose espérer que non. On est quand même dans un état de droit. Les avocats sont quand même protégés. Enfin, en fait, on porte la robe justement parce que on prend de la distance avec ce qu'on fait. On a un secret professionnel qui est très fort, une déontologie très forte. Donc, j'ose espérer que les avocats ne puissent pas être inquiétés. Mais il y a eu une affaire très récemment d'un avocat qui a défendu à Bure contre le nucléaire et qui a été perquisitionné dans son cabinet. Et ça a vraiment fait beaucoup parler dans la profession parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on s'attaquait à un avocat. Mais heureusement, il y a l'ordre des avocats qui est là, qui est présent et qui doit être là. En fait, il y a notre référent déontologique, c'est le bâtonnier, il s'appelle. C'est un avocat qui est président de l'ordre et qui doit être là quand il y a des perquisitions contre les avocats. Et donc finalement, je crois que ça s'est bien passé pour lui, mais ça a quand même beaucoup fait parler. Donc c'est vrai que j'ose espérer qu'on n'ait pas de risque, mais on voit en fait que ça peut arriver, quoi.
C'est donc arrivé avec ce gouvernement.
Oui, c'est arrivé très récemment.
Justement, là, on se retrouve avec un gouvernement quand même très agressif qui se permet ce que tu viens de dire, par exemple. De l'autre côté, les actions écologistes de prise de conscience, les lanceurs d'alerte sont particulièrement méprisés, attaqués, ridiculisés, enfoncés. Ça rejoint aussi le début de ma question, mais comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir, voilà, pour rester optimiste, hein, Sylvain, par exemple?
Pour moi, l'avenir, c'est un avenir de lutte optimiste, mais c'est vraiment un avenir de lutte, c'est-à-dire que si on fait rien, si on aura de moins en moins ces libertés publiques, on aura de plus en plus d'atteintes à nos libertés publiques, il va falloir se battre, c'est sûr, il va falloir se battre. On n'en a pas du tout parlé, mais on a une extrême droite qui est aussi grimpante, montante. J'aime bien le terme de grimpante parce que je trouve que c'est un peu ça, on s'en rend pas trop compte, mais finalement elle pourrait arriver au sommet. Et ça aussi, là on sort du droit de l'environnement, on va dans les libertés fondamentales, mais elles sont primordiales et elles sont en train d'être attaquées. Et il faut qu'on se mette en place par des collectifs, des manifestations, des avocats qui soient là pour pouvoir les défendre.
C'est un appel ?
Lançons un appel, hein. De toute façon on n'est jamais assez, mais il y a des avocats militants, il y a des avocats, des avocates militants, et lançons un appel alors.
Moi, je trouve quand même qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, en fac de droit, ça commence à aller, mais par exemple, à l'école des avocats, on a été tous les deux à l'EFB à Paris. Quand tu dis que tu fais du droit de l'environnement, tu es vraiment un extraterrestre, parce que là-bas, la majorité fait du droit des affaires. Et ça ne les intéresse pas. Il y a des avocats engagés, mais il n'y en a pas autant que des avocats d'affaires ou quoi. Ça reste quand même une niche et ça n'intéresse pas tout le monde, parce que voilà, c'est des métiers où c'est un métier passion. Là, si tu fais du droit de l'environnement, tu sais que tu ne vas pas forcément bien gagner ta vie, que tu vas être dans le militantisme et tout ça. Et donc, c'est vraiment un choix.
Gauchistes qui n'ont pas d'argent.
Oui, c'est ça. Mais on m'a déjà posé la question, mais vraiment, tu as fait 7 ans d'études pour ne pas gagner d'argent? Et je leur ai dit, en fait, je m'en fiche, je veux me sentir en accord avec moi-même. J'aurais pas choisi le droit de l'environnement si je voulais gagner de l'argent, j'aurais fait du droit des affaires et c'est tout. Il y a de l'espoir, lançons un appel. Moi, je pense qu'il y en a déjà, mais il n'y en a pas non plus assez. Il n'y en a jamais assez.
Eloane, Sylvain, merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup. Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'ordre organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit? Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexique, autant que New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Raser les forêts entières, en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une rente pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. D'espèces animales et le plus de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme de croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète. Yeah.
mission. Le passant